C'est une rue barrée, c'est ce qu'on peut pas dire. C'est 10 ans purés dans un souvenir. C'est ce qu'on voudrait sans devoir choisir. La mélancolie, c'est un chat perdu.
Les amis d'Orwell, bonjour. Vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Les amis d'Orwell, c'est une émission quinzomadaire erroriste dédiée à la vidéosurveillance et au tout sécuritaire, donc d'information et de lutte contre la vidéosurveillance et le tout sécuritaire. Pour nous joindre en direct en studio, c'est le 01 43 71 89 40. Et pour nous joindre plus précisément, vous pouvez nous écrire à l'adresse des amis d'Orwell au 145 rue Amelot, A-M-E-L-O-T, dans le 11e à Paris. Et sinon, très dernièrement, nous avons ouvert une adresse mail. Donc, c'est lesamisdorwell, tout attaché, @nous-log.org. Donc, vous pouvez nous écrire vos témoignages, vos envies de participation, vos coups de gueule, etc. On fera suivre. Donc aujourd'hui, on voulait commencer par une annonce concernant une occupation qui a lieu, qui a commencé a priori hier. Donc environ 150 sans-papiers ont occupé le bâtiment A de l'université de Paris 8 Saint-Denis. Et donc les collectifs des sans-papiers, donc collectif des sans-papiers 77, collectif des sans-papiers Solidarité 93, CSP Montreuil et CSP Kabyle appellent tous les sans-papiers à les rejoindre. Donc l'université Paris 8 Saint-Denis, c'est au bout de la ligne 13 du métro, donc Saint-Denis Université. Le collectif qui occupe le bâtiment A donc de Paris 8 appelle à la régularisation de tous les sans-papiers, l'arrêt des rafles et à la libération des sans-papiers arrêtés pour défaut de papier. Donc voilà, pour toutes celles et ceux qui veulent soutenir cette occupation, bah, vous savez où le faire désormais. On va continuer et rentrer dans le vif du sujet du sécuritaire avec un certain nombre de procès, d'annonces de procès qui ont lieu dans les prochaines semaines, en commençant par le refus ADN. Alors on en a déjà parlé plusieurs fois dans cette émission. Le refus ADN a rencontré une résistance à travers la création du site refusadn.free.fr suite donc au procès de Benjamin de Seninck, ce paysan du sud de la France qui avait refusé suite à un contrôle d'identité suivant une action anti-OGM de donner son ADN. Et donc s'est créé un groupe qui récolte les témoignages et qui essaie de mobiliser sur les différents procès. Donc le dernier qui avait lieu, c'était celui de Camille Beau à Mâcon le 12 décembre dernier. En fait, le procès a été renvoyé au 21 mars 2007 prochain à 14h. Il y a une pétition qui a été lancée pour le soutien à Camille. On rappelle juste que Camille avait été emmenée au commissariat suite à une présomption de consommation de stupéfiants et que donc dans les locaux de la police, elle avait refusé de donner son ADN, donc ce qui suppose qu'elle aille devant les tribunaux. Pareil pour Jean-Yves H, qui a été transition un peu plus évidente. Donc Jean-Luc H, qui a été condamné pour refus de prélèvement ADN aussi. Il a été condamné à une amende, il a pris acte de cette décision et la justice avait rendu son jugement. Mais il y a quelques jours, Jean-Yves a été reconvoqué par le commissariat pour un nouveau prélèvement qu'il a de nouveau refusé. Il a été placé en garde à vue, puis est passé en comparution immédiate suite à son refus, donc, et il a été condamné à 500 euros d'amende. Donc, on aura de cesse de répéter que législation supposant un an d'enfermement et jusqu'à 15 000 euros d'amende est retombée suite aux dernières décisions judiciaires, donc premièrement de Benjamin de Seninck, donc à Alès, puis de Bernard Coquel à Douai, à 500 euros d'amende. Donc bon, il n'y a plus de risque d'enfermement à ferme, donc pour ceux qui refusent de donner leur ADN, mais a priori on passe donc systématiquement sur 500 euros d'amende, ce qui quand même représente une forte somme vis-à-vis du problème en question.
Et par ailleurs, les poursuites ne s'arrêtent pas puisque les contrevenants sont convoqués à nouveau et invités à nouveau à donner leur ADN. Enfin, apparemment, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas.
Oui, d'ailleurs, Benjamin, il y a une mise en délibéré de son jugement pour le 26 janvier prochain au tribunal d'Alès. Donc pareil, forte mobilisation. Et on vous incite tous à aller voir le site donc refusadn.free.fr. Dans le même ordre d'idées donc de procès et de procédure, il y a deux personnes qui ont été interpellées le 1er et 2 juin dernier lors des événements qui avaient accompagné, on va dire, l'inauguration de Minatech à Grenoble, donc une répression à tout craint. Donc il y a deux personne qui passe en procès le 10 janvier prochain. Pour plus d'infos et pour prendre contact avec les futurs les interpellés et les futurs jugés, procès Minatech, donc tout attaché, procès procesminatec @no-log.org. Enfin, dernière info judiciaire, pour préciser que L'Envolée, donc le journal L'Envolée, était en procès aujourd'hui à 13h30 devant le tribunal de Beauvais. On n'a pas de nouvelles pour le moment. Je pense que l'émission des copains, l'émission Ras les murs, en fera état. Par contre, pour rebondir sur L'Envolée, on vous invite à lire le dernier numéro de L'Envolée, donc le numéro 18 de novembre 2006, qui a un supplément qui porte comme titre « Vous avez dit prévention ?» point d'interrogation, et qui traite entre autres de la lutte contre la loi de prévention de la délinquance et également de la prévention situationnelle. La prévention situationnelle dont on a déjà dû vous parler dans cette émission, qui est en fait une forme, une conception architecturale consistant à élaborer un environnement urbain propice à juguler, on va dire, toute forme de révolte et toute forme de contestation. On vous lira sans doute d'ici à la fin de l'émission un petit extrait de la prose des gestionnaires de la prévention situationnelle qui est assez intéressante. Juste avant de passer une petite musique, j'ai manqué à tous mes devoirs en ne présentant pas mes co-animateurs d'émission, à savoir Claude à côté, à ma droite, mais bon, ça vous ne savez pas, et Olivier à la technique qui a remplacé au pied levé, on l'en remercie, Denis qui est absent aujourd'hui. Voilà, donc un petit Coltrane et un petit... Non, c'était du Coltrane et du quoi ?
Et du Killington.
Et du Killington.
Eliminate the sun, guide him. Then I come back again. murderation. Chop your murderation, man, on them case.
Les amis d'Orwell sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Nous ne vous avons pas passé du Duke Ellington et du John Coltrane, mais How It Is, qu'on trouve sur une production menée par Akhenaton et qui s'appelle Electro Cypher.
On continue avec une information qui concerne la biométrie. On a souvent parlé dans cette émission du lycée Marcel Lamy dans le 18e arrondissement. Et il semble que notre dernière émission, on ait crié victoire un peu vite, en fait. On annonçait le démantèlement du système biométrique qui équipe l'entrée de ce lycée professionnel où on apprend la coiffure. Et en fait, le délégué syndical Sud... qui mène la bagarre anti-biométrie, vient d'écrire à la CNIL, je crois que c'est son 27e courrier à la CNIL, pour dénoncer que, contrairement à ce qu'avait annoncé au comité d'entreprise la direction de ce lycée privé, eh bien, le matériel biométrique est toujours en place. Alors, en fait, dans ce courrier, il y a une description vraiment intéressante des scènes auxquelles on assiste dans ce bahut. Bon, il y a des enseignants qui ont refusé d'être enrôlés, de donner leur empreinte digitale, et ceux-là attendent à la porte, en fait, que des collègues veulent bien les laisser rentrer. Et dernièrement, donc, une déléguée syndicale CGT avait laissé une gomme dans la gâche de la porte biométrisée, et ça lui a valu un avertissement, en fait. Donc c'est intéressant, ça prend cette forme là aussi, la lutte anti-biométrie. Voilà, donc c'est pas fini. C'est un lycée, malheureusement les enseignants opposés à la biométrie, ils sont très minoritaires, et il y a une chasse assez féroce, en fait. Une chasse féroce est menée à ces opposants. Une autre information qui concerne la vidéosurveillance. La FCPE vient de produire une note de synthèse sur le sujet. Donc Il y a une petite interrogation, même si ce recours à la technologie peut présenter certains avantages en matière de lutte contre l'insécurité, on peut néanmoins se demander si ceci n'est pas une façon de masquer un manque flagrant de personnel. Donc il y a un doute quand même là sur la même si ce n'est pas extrêmement virulent de la part de la FCPE qui a produit des textes un peu meilleurs. Il y a un doute quand même, et le texte poursuit. Quel modèle éducatif la présence de caméras offre-t-elle aux jeunes? Ne vaudrait-il pas mieux que l'ensemble de la communauté éducative cherche d'autres solutions dans le cadre du projet d'établissement et ou du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté? Alors, l'avantage de la note, par contre, c'est qu'elle donne des textes réglementaires. Elle récapitule un peu les points réglementaires qui régissent actuellement la vidéosurveillance.
Sur la vidéosurveillance, toujours très brièvement, deux petites informations, à savoir qu'on a eu reçu un courrier sur le site de Souriez, vous êtes filmé, d'un résident de la ville de Villeneuve-sur-Lot, donc à côté d'Agen, qui nous a, enfin, un courrier qui date du 10 septembre dernier, et 10 décembre, pardon, et qui nous a dit que, ça y est, les caméras sont en train de s'implanter à Villeneuve. Il avait l'intention, cette personne avait l'intention de se bouger contre l'installation de ces caméras. Mais bon, encore une ville de plus en France sous l'œil des caméras. Pareil, à Paris, dans le 14e arrondissement, on apprend qu'il y a carrément des systèmes de surveillance qui seraient mis en place dans un quartier récemment restructuré du 14e arrondissement. Et c'est l'association Urbanisme et Citoyenneté qui nous a prévenus. Alors, il y a eu une première réunion le 5 décembre dernier, dont on n'a pas le compte-rendu exact, mais a priori, on en reparlera dans les prochaines émissions, puisque on est de fait en contact avec les gens qui militent dans cette association. Et on devrait faire un topo un peu plus précis lors de la prochaine émission. Il y avait également quelque chose sur Mantes-la-Jolie.
Sur Mantes-la-Jolie. C'est amusant de noter que la semaine où l'on apprend la condamnation de Bédier, qui est le député du coin, qui a lancé la vidéosurveillance à Mantes, qui s'est pris un Big Brother Award, on s'en souvient, pour avoir installé sur fond public des caméras sur la place principale du Val-Fouré. Donc c'est amusant de noter que c'est la même semaine où on apprend sa condamnation pour corruption.
D'une honnêteté irréprochable, donc.
Voilà. Eh bien, on apprend dans la presse locale que le projet de quadriller la ville, le centre-ville et les artères principales du Val-Fouré se poursuit. Et donc le maire actuel, qui est une marionnette, en fait prétend que des exemples nombreux prouvent l'efficacité de la vidéosurveillance. Voilà.
Ce qui est très largement, on n'est absolument pas sûr. Enfin, les dernières expériences scientifiques mettent la brèche par rapport à ça. Ouais. On aura de cesse de le répéter une dernière fois. Enfin, une dernière fois, justement pas. On passe à une interview concernant la situation de la ville de Plohermel.
Oui, Plohermel, donc dans le Morbihan. A accueilli en fait le week-end dernier un week-end d'action et d'information pour le premier anniversaire des caméras de vidéosurveillance. Alors c'est tombé le jour même de l'inauguration, le week-end même de l'inauguration de la statue géante de Jean-Paul II. Donc ça a donné lieu à un petit happening que Jean-Pierre Petit de Souriez vous êtes filmé raconte dans le reportage fait par Amanda qu'on va écouter.
Bonjour, je suis avec Jean-Pierre Petit qui revient de Plohermel. Il a passé le week-end dernier à Plohermel. Tu peux nous expliquer pourquoi tu y es allé?
Plohermel d'abord est une très belle ville, accueillante. Il y a la statue de Jean-Paul II, il y a le McDo, il y a les caméras de surveillance, il y a tout ce qu'il faut pour y passer du bon temps.
Et donc tu étais invité par le collectif Plohermel sans vidéo. Tu peux nous parler d'eux?
Eh bien, c'est un collectif qui fêtait, c'est un grand mot, mais qui organisait deux jours par rapport à un an de vidéosurveillance à Plohermel. Mais c'est un peu compliqué parce que c'était aussi l'inauguration officielle de la statue de Jean-Paul II à Ploërmel. Statue de Jean-Paul II vous avez la statue et juste en dessous il y a un gros n'ayez pas peur qui est marqué. Donc tout est lié, vous voyez, la religion, la sécurité. C'est une ville, c'est un week-end tout à fait symbolique.
Donc à Ploërmel, donc c'est la première commune du Morbihan qui a installé 40 caméras l'année dernière, notamment près de la salle des fêtes. Et donc le maire UMP, donc s'est vu. Alors il parle d'un cadeau. Il a reçu une statue de Jean-Paul II. Alors il dit que c'est un cadeau. Je ne sais pas si tu as plus d'infos là-dessus.
Bah, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une statue qui a été faite par un sculpteur russe proche du pouvoir de Poutine. Et tout est vraiment, c'est vraiment le maire a fait venir toutes les personnalités de droite. Il a fait venir un sculpteur qui aurait pu être un sculpteur stalinien. Il a fait une statue stalinienne de Jean-Paul II. Il a installé ses caméras. Les opposants à la vidéosurveillance, c'est quand même ça que je voudrais dire, qu'ils sont pas très nombreux. Et dans une ville où il n'y a pas d'église laïque, hein, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'école laïque, c'est un lapsus. Il n'y a pas d'école laïque, il n'y a qu'une école catholique. C'est pour vous dire l'ambiance de cette petite ville.
Une ville de 8000 habitants.
De 8000 habitants, et tu as deux ou trois opposants à la vidéosurveillance qui sont, je trouve, vraiment méritoires. Quoi. Parce que pour nous, à Paris, c'est pas facile de se battre sur le terrain du sécuritaire, mais quand on est dans une petite ville de 8000 habitants, qu'on n'est que deux ou trois... Dans un climat comme ça, presque intégriste et complètement sécuritaire, et qu'on arrive à faire du boucan à deux ou trois sur toute une région, et même attirer notre attention à Paris, je trouve que c'est vraiment... je suis très content d'avoir rencontré les animateurs de Ploërmel sans vidéo, parce que c'est une sorte d'exemple pour nous, je crois. Et pour vous citer un exemple qui n'a rien à voir avec la vidéosurveillance, mais qui met en exergue le courage de ces militants, un jour, un des animateurs du collectif, le maire et son équipe qui passent, et ce copain donc brandit une affiche de la Fédération anarchiste, agir au lieu d'élire, pour se foutre de la gueule des notables, hop. Interpellation tout de suite par la police municipale et voilà quoi. C'est pour dire le climat quoi. C'est une ville où quand on fait quelque chose, on peut se faire embarquer.
Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le maire de Ploërmel, qui a donc installé l'année dernière 40 caméras, a en fait créé des émus puisque dans des villes du même département. Il va y avoir aussi des caméras, 15 caméras à Séné, dans le Morbihan, pour un coût de 30 000 euros, et 10 caméras à Saint-Avé, maire socialiste, Hervé Pellois. Donc voilà pour la situation dans le département. Pour revenir à l'action qui a eu lieu le dimanche, donc le samedi, c'était le petit débat avec le collectif Ploërmel sans vidéo, donc le week-end dernier. Et donc un petit débat en fait qui n'a pas réuni beaucoup de monde, mais en tout cas qui a été très constructif dans la rencontre entre militants. Et ensuite donc le dimanche, c'était il y a eu d'abord le collectif organisait une visite en vélo des sites vidéo surveillés. Et donc l'après-midi, c'était l'inauguration de la statue Jean-Paul II qui mesure 8,75 m. Donc peut-être que tu peux nous parler de cette action.
Il faudrait quand même que je précise que c'était. Que ce soit avec la vidéosurveillance sur la statue de Jean-Paul II, ça a quand même été une grande épopée collective, puisque c'était une action conjointe. Souriez, vous êtes filmé, la brigade activiste des clowns, et qu'on est quand même parti à quatre voitures là-bas, dans une ambiance chaleureuse, conviviale et pleine d'imprévus, comme ici à ce genre d'expédition, et que tout était un peu lié quand même, et que. On était en pleine forme pour le dimanche, effectivement, les uns et les autres. Mais le dimanche, C'était une action de la brigade activiste des clowns, mais où se sont mélangés sentiments laïques et puis anti-vidéosurveillance, prière anti-consommation, enfin une sorte de best-of de la contestation qui allait très bien à Plohermel.
Est-ce qu'il y avait des habitants de Plohermel avec vous ?
Eh bien, quand on a fait notre action avec la brigade activiste des clowns, oui, il y a un vieux couple qui avait sa petite pancarte. Il y avait des anti-vidéos de Plohermel qui sont venus regarder. Il y a pas mal de gens dans la ville qui souriaient quand on passait, oui. Par contre, parmi les gens qui regardaient la statue, les catholiques bontins, certains étaient assez agressifs, hein, mais... On a été stoppé dans notre élan par les forces de l'ordre, la gendarmerie.
Donc votre objectif au départ, c'était d'arriver jusqu'à la statue ?
Quand même d'écrire notre action, qui ne manquait pas de piquant, puisque d'une part, on avait Dieu en personne. On était un certain nombre de pénitents, une dizaine de pénitents en toches blanches, et puis perruques, nez rouges. Il y avait la gaga mobile avec Sa Sainteté le Pape, Paul II, et qu'on a fait quand même un gros effet dans les rues de cette petite bourgade, tous ensemble. Et donc on était partis pour aller poser un nez rouge sur la statue de Jean-Paul II. Et dès qu'on est sorti de la maison où on s'abritait, tout de suite les forces de l'ordre ont voulu s'emparer de nos... s'agripper à nos toges pour nous faire tomber par terre, sans succès. On a quand même réussi à s'approcher des barrières et à un petit peu voler la vedette des tristes cires qui discouraient.
Et où étaient les militants laïcs de Plohermel ?
Les militants laïcs de Plohermel avaient choisi de se retrouver à 8 km de là pour faire un débat sur la laïcité. Voilà. Il faut expliquer qu'ils ont quand même fait, le 18 novembre, une grosse manif de 500 personnes, hein, eux ils disent 700 même. Et dans une petite ville de 8000 habitants, quand on arrive à regrouper 500 ou 700 personnes de la région, c'est une grosse manif. Hein, et ils avaient été stoppés à l'entrée de la ville, et là ils ont voulu changer de stratégie, mais du coup c'est quand même... Du coup, c'est la brigade activiste des clowns et nous-mêmes qui avons un peu fait le spectacle, mais le spectacle au sens militant du terme, quoi. Et donc, on avait quand même notre petite chanson, on chantait « N'ayez pas peur, nous sommes là ». Voilà, quoi.
Et donc, des caméras vont être installées sur cette place ?
Hein ?
Des caméras vont être installées sur la place où se trouve la statue de Jean-Paul II ?
Mais je vous assure que cette statue vaut vraiment pas le coup, à part n'ayez pas peur en dessous. C'est du toc, c'est vraiment, c'est pas très bien, quoi. Mais on était très contents de chanter quand je pense à Paul II, je bande, des trucs comme ça. C'était très, très, on était très inspirés. Le climat était sec et humide, comme il allait à ce genre d'événement. On a aussi fait donc les prières à la vidéosurveillance, mais qui ont été un grand moment d'émotion. On a fait une procession après dans la ville. Malheureusement, ça s'est un peu mal terminé, parce que comme je l'ai dit au début de notre entretien, on avait Dieu avec nous. Et Dieu, il est un peu mégalo. Dieu, il a voulu s'emparer du micro de la caravane publicitaire qui faisait la quinzaine commerciale. Il a dû se réfugier sur le toit de la caravane et à ce moment-là, il a fait une grande homélie à la population. La gendarmerie a cerné la caravane et Dieu a voulu trop en faire. Il était en sandalette, il a voulu tomber, faire le saut de l'ange. Il est tombé sur le bitume et Dieu s'est brisé le talon. Voilà, quoi. Donc cette procession de la brigade activiste des clowns, c'est un peu tristement... terminé, mais peut-être que ça fera partie des bons souvenirs qu'on se rappellera plus tard. Enfin, quand même, une pensée à Dieu qui est quand même plâtré pour un mois et demi. Là.
Et concernant les chansons de l'action, tu te rappelles d'une chanson ?
Ben oui, je me rappelle aussi qu'on avait pas mal de pancartes « Dieu vous surveille ». Mais là, c'était l'autre Dieu, hein, par rapport aux caméras de surveillance. Donc, on avait ces pancartes-là. Les nombreux journalistes présents n'ont pas fait le rapprochement entre « Dieu vous surveille »,« Le n'ayez pas peur de la statue » et les caméras de surveillance de Ploermel. Mais je pense que les auditrices et auditeurs de Radio Libertaire auront compris que « Dieu vous regarde », c'est un message pour les intégristes. Chanter, non, quand même. Quand je pense à Peupol de je bande. Quand je pense à Onsen, je ne pense à rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ni Dieu ni maître.
Ed in la vilo de Marsio ave fuasso giue no gen cani asilo ni fa mio travaio pa fa longi den nena che gen es de gusaio o vu dire la verità nena che gen es de gusaio o vu dire la verità vi assim paere de fa mio qu'à peine à nourrir six enfants, au gros travail si sacrifie, elle y donna une morceau de pain, elle y en a qu'un pot de pain, et ben souverain per manger, elle y en a qu'un pot de pain, et ben souverain per manger, reste qu'on trace une seconde. L'homme qu'a joué pas de mandat, tout sous les cunis famille, qu'on ne sait plus où t'es passant. Au restaurant, mon papa taille, et pour des papes, est-ce que paga? Au restaurant, mon papa taille, et pour des papes, est-ce que paga? Va demander ce qu'il faut. Tout en parlant, c'est parfait. Quand bien qu'il dise la vérité. Tout en parlant, c'est parfait. Quand bien qu'il dise la vérité. Oh mes amis, si fallait tout dire, ne diriez trop que c'est pas bien. Oh que souffrit c'est le martyr. Et que ne diguez jamais rien. Si des repos et pas canaille, oh, et bien messieurs ne manquent pas. Si des repos et pas canaille, et bien messieurs ne manquent pas.
Alors, c'était Dupin, c'est un groupe de Marseille. La Canalia, c'était le nom de la musique. Dupin, il fait partie d'une compilation de soutien intitulée Le bruit des potes, avec notamment Ceux qui marchent debout, Raoul Petit, etc. Compil de soutien à l'association Contact Sud Musique, qui a priori s'est fait vandaliser en août dernier son festival suite à une intervention musclée de la police. Juste avant, c'était une interview de Jean-Pierre Petit, donc qui, dans le cadre de la Brigade Active des Clowns, a participé le week-end dernier à une action à Plohermel pour commémorer les 1 an de la vidéosurveillance. Et donc, vous l'avez entendu, ils avaient fait une petite manifestation déguisée pour ridiculiser un peu et la vidéosurveillance et la statue de ce cher Jean-Paul II. Tout de suite, enfin, j'ai sous les yeux en fait un communiqué de presse qui est sorti le 11 décembre dernier. Un communiqué de presse de l'association Pas de zéro de conduite. On se souvient que l'association Pas de zéro de conduite s'était constituée suite à un rapport de l'INSERM qui était sorti et qui traitait des troubles comportementaux des enfants, dans lequel il y avait un certain nombre de mesures assez scandaleuses et qui sous-entendaient surtout que les enfants pouvaient se faire redresser tout jeune et qu'on pouvait donc repérer les troubles comportementaux dès 3 ans, donc de voir les futurs criminels dès ce jeune âge. Donc le communiqué de presse est plutôt optimiste, puisque le Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans porte en sous-titre « Le débat scientifique et de société a porté ses fruits ». Donc l'INSERM vient d'annoncer une refonte de ses méthodes d'expertise dans le domaine de la santé psychique. Le débat scientifique et de société impulsé par Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans a donc porté ses fruits. Face à l'ampleur du mouvement, le ministre de la Santé avait chargé l'INSERM d'organiser un colloque. Celui-ci, intitulé « Troubles des conduites de la clinique à la recherche », s'est tenu le 14 novembre dernier à Paris. L'INSERM y a fait son mea culpa. Dans sa conclusion, le porte-parole de l'INSERM a annoncé que les méthodes de travail des expertises INSERM dans le domaine psychique seront revues. Il y aura notamment prise en compte de la diversité des approches épistémologiques et pratiques, comme de l'expérience des acteurs de terrain et de l'apport des sciences humaines et sociales concernées par les problématiques considérées. La multidisciplinarité est une condition d'une démarche éthique et scientifique, a considéré Jean-Claude Amezin, président du comité d'éthique de l'INSERM. Jean-Marie Dagnon, professeur de psychiatrie à Strasbourg, directeur de l'unité INSERM 666, ou 66, j'espère qu'il ne porte pas le terme 666, ça serait de mauvais augure, et porte-parole de l'Institut, précise « Désormais, lorsqu'une expertise aura de fortes implications sociétales comme celle-ci, nous demanderons aux professionnels de terrain de nous faire des propositions sur les noms d'experts à consulter. » Puis, à l'issue de ce travail, mais avant sa publication, nos interlocuteurs y auront à nouveau accès afin de ne pas donner l'impression d'un texte détenteur d'une réalité intangible. Il nous faut également rejeter toute approche sécuritaire en étant d'une vigilance sans faille vis-à-vis des risques de récupération politique. Il aura fallu 1 an de travail et d'action du collectif Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans pour aboutir à cette prise de conscience. Fin 2005, l'INSERM publie une expertise sur le trouble des conduites chez l'enfant et l'adolescent. Elle établissait une corrélation abusive entre les difficultés psychiques de l'enfant et une évolution vers la délinquance. Elle préconisait le dépistage de ce qui était appelé « trouble des conduites » chez l'enfant dès le plus jeune âge. Au même moment, un plan gouvernemental de prévention de la délinquance apparaissait. Il prônait notamment une détection très précoce des « troubles comportementaux » chez l'enfant, censé annoncer un parcours vers la délinquance. Janvier 2006, l'appel « Pas de zéro de conduite pour les enfants de 3 ans » était lancé. Il s'élevait contre les risques de dérive des pratiques de soins, notamment psychiques, vers des fins normatives et de contrôle social. Il refusait la médicalisation ou la psychiatrisation de toute manifestation de mal-être social. Il engageait à préserver, dans les pratiques professionnelles et sociales, la pluralité des approches dans les domaines médical, psychologique, social, éducatif, vis-à-vis des difficultés des enfants, en prenant compte la singularité de chacun au sein de son environnement. Il appelait à un débat démocratique sur la prévention, la protection et les soins prodigués aux enfants. L'appel était très vite porté par près de 200 000 signataires. le débat scientifique et de société prenait alors une ampleur sans précédent, témoignant massivement d'un double refus. Premièrement, refus d'une prévention prédictive du déterminisme et du conditionnement. À 3 ans, tout n'est pas joué. Deuxièmement, refus de voir la politique de sécurité s'emparer, à travers un projet de loi sur la prévention de la délinquance, des domaines qui relèvent de la politique de santé, notamment de ce qui a trait au dépistage précoce dans la sphère psychique. Juin 2006, Pat Zéro de Conduite publie son premier ouvrage et organise un débat national, poursuivant la critique du rapport de l'INSERM et dénonçant sa récupération politique. Le gouvernement annonce alors le retrait de l'article sur le dépistage précoce du projet de loi prévention de la délinquance et renonce à l'idée d'un carnet de comportement dès la maternelle. Le dépistage précoce d'un trouble psychique chez les tout-petits est déconnecté de la législation sur la délinquance. Dans le même temps, la validité scientifique de l'expertise de l'INSERM est de plus en plus contestée par l'immense majorité des professionnels concernés, par de très nombreux chercheurs et par de larges secteurs de l'opinion publique et des familles, notamment la pertinence de la notion même de trouble de conduite. Lors du colloque INSERM du 14 novembre 2006, devant le ministre de la Santé et le directeur de l'INSERM, c'est quasiment à une contre-expertise collective sur la question du dépistage des troubles de conduite de l'enfant que se sont livrés tous les grands noms de la pédopsychiatrie française et des pédiatres, psychologues, sociologues, épidémiologistes. Donc ça, vous pouvez retrouver sur http://www.pas20deconduite.ras.eu.org. Donc vous avez le programme complet et la liste des intervenants du colloque. Xavier Bertrand, ministre de la Santé, a déclaré « C'est la souffrance de l'enfant qu'il faut s'attacher à traiter ». Il a plaidé pour un dépistage précoce, mais estimé que toute association systématique entre troubles du comportement et délinquance est infondée. Regroupons les professionnels de la pédopsychiatrie, de la psychologie de la santé et de la petite enfance, des chercheurs et des familles. Ce colloque a dégagé un rejet quasi unanime à l'égard des préconisations de dépistage précoce de la délinquance, d'un dépistage centré sur les seuls symptômes visibles, d'un contrôle des familles et d'une approche sécuritaire des difficultés de santé. Tous les professionnels se sont accordés sur la nécessité d'une prévention globale des troubles, dans le respect de l'humanité et de la singularité de l'enfant comme de sa famille. Ils ont mis en valeur, la notion d'accompagnement. Aujourd'hui, 1,5 million d'enfants sont suivis en psychiatrie publique, autant en CMPP, consultation médico-psychopédagogique, et en libéral. Mais tous s'accordent pour déplorer les listes d'attente interminables et le manque de moyens pour démarrer une prise en charge une fois les premiers troubles détectés. Cela dit, il y a donc un certain nombre de risques qui courent, puisqu'il y a un certain nombre de lois qui sont passées, comme celle de la prévention de la lutte contre la prévention sur la délinquance. Et donc le collectif Pas de zéro de conduite précise un peu plus bas qu'il saura dénoncer les initiatives de fichage d'enfants en difficulté dont la presse s'est fait écho et qui pervertissent les pratiques de prévention. Il saura aussi rester vigilant sur les contenus et l'éthique des productions scientifiques et des rapports officiels dans le domaine de la santé psychique de l'enfant et de la prévention. Mais nous avons bien avancé. Se targuent donc Pas de zéro de conduite, et ils ont raison. Mais l'action et la vigilance sont de mise. D'autres rapports, d'autres lois concernant nos enfants sont en cours. Donc encore une fois, le site c'est www.pas-de-zéro-de-conduite-tout-attaché.ras.eu.org.
Et sur la même question du fichage, il y a un billet aujourd'hui dans Libération de Pierre Marcel qui expose comment la bourgeoisie accepte éventuellement d'être fichée elle-même pour peu que ça la distingue du bas peuple, du tout venant. C'est-à-dire la bourgeoisie accepte d'être dans les fiches d'un grand magasin comme Le Bon Marché, ou dans les fichiers, par exemple, de Mercedes. Enfin, on peut l'imaginer. Donc, ça s'appelle « Conte de Noël ». Et « Conte » s'écrit C-O-M-P-T-S-E-S. C'était vendredi dans ce quartier de la rive gauche où se hume la thune et à deux pas de l'amusante enseigne du Bon Marché qui s'énonce telle une antiphrase. « Je traîne par là, moi, une fois par trimestre » pour refaire mon plein de café en cartouche dans cette boutique qui les distribue exclusivement. Ces tauliers faisaient ce jour-là exploser le chiffre de leur bonne affaire et se mettaient une chose étrange que d'observer ces queues d'étoffe moelleuses et de cuir en fleurs, quatre fils d'une serpentine clientèle se surprenant elle-même dans une attente. Attitude incongrue, en vérité, tant tout dans son apparence signifiait que son temps, c'est beaucoup d'argent. On perçut ça surtout quand, tour à tour, deux des jeunes femmes d'une stricte élégance qui encaissaient à foison, durent un instant s'absenter, non sans s'être d'abord abondamment excusés. La foule frémit alors et presque murmura. Grondée, elle n'aurait su. On n'était tout de même pas là chez Aide ou chez Leclerc, à Auchan ni à Conforama. Mais les files s'allongèrent de rechef. Un grand hennissement de soulagement salua deux fois le retour des filles, mais ça n'avançait guère, et ce n'est qu'à l'approche de la caisse que je perçus enfin la raison de ces lenteurs. De chaque client, la préposée à la distribution sollicitait l'identité, répertoriée dans un ordinateur sur l'écran duquel elle rapportait, dans les cases ad hoc, le détail des doses retirées. Et pas contente, la cohorte enfant, si l'on prétendait déroger à ces formalités flicardières. C'est seulement alors que je compris que le vrai pactole de l'entreprise consistait moins en bon pognon qu'en l'entretien d'un fichier de prétendus nantis. Et tandis que, las de la lenteur des opérations où je refusais mon concours à ces facéties numériques, je sentis monter derrière moi le clapot d'une longue et désapprobatrice rumeur, comme si mes congénères comptaient somme toute pour peu la perte de leur précieux temps, pourvu que les formalités des occasionnants distinguent leur qualité. Voilà.
Bien. Donc, on n'est pas les seuls à aller tranquillement. Enfin bon, on ne va pas souvent au BHV, ou non, au Bon Marché, pardon. Donc, on ne se sentira peut-être pas directement concerné, mais peut-être quelque chose qui est un peu plus direct, c'est l'association Pièces et Main-d'œuvre de Grenoble. Pièce et main d'œuvre donc qui s'oppose aux nanotechnologies dont on a parlé un peu plus haut avec le procès donc des deux copains qui se sont fait interpeller à Minatec en juin dernier, enfin à Grenoble en juin dernier contre l'inauguration de Minatec. Il y a eu suite à cette manifestation et donc à la montée en puissance de la contestation des nanotechnologies une opération qui s'appelait Nanovive et qui a été montée à Grenoble entre septembre et décembre dernier. Et en fait, c'est plusieurs structures subventionnant, sinon financièrement, du moins dans l'idée, les nanotechnologies qui ont organisé cette opération. Et on a un texte qui émane, selon PMO, directement d'un des centres de recherche où l'on peut être objecteur de conscience. Alors, conscience avec un S majuscule hein, et à séparer les deux. Ce texte, on le tient à disposition des auditeurs qui voudraient le recevoir. Et j'en profite pour rappeler que vous pouvez nous contacter à l'adresse lesamisdorwell@no-log.org. Les amis d'Orwell tout attaché. Et donc PMO nous indique que ce document, c'est le résultat de l'opération Nanovive, montée à Grenoble donc de septembre à décembre dernier. Les préconisations de Vivagora et du CCSTI, officine chargée de la propagande des nanotechnologies. Nous le livrons tel quel, faute d'orthographe et de grammaire comprise, assorti de quelques notes de traduction qui seront encadrées en jaune donc, pour ceux qui recevront ce document. Cette opération avait deux objectifs. Premièrement, rallier un maximum d'opposants aux nanos autour d'une même table avec les promoteurs des nécrotechnologies grenobloises, voire avec les technarques parisiens et européens. Deuxièmement, faire du chiffre, restaurer quelque peu l'image du technogratin après les manifestations de juin contre l'inauguration de Minatec. Le premier point est un échec. Aucun opposant aux nécrotechnologies ne s'est compromis dans cette récupération. Nanovive n'a recruté que les habituels collaborateurs de la démocratie technicienne, science citoyenne. Quant au second point, vu les moyens investis, il ne devrait tout de même pas être trop difficile d'extorquer quelques papiers complaisants au Dobé et aux médias de connivence. Le Dobé, c'est le Dauphiné libéré. Hein. Le premier point, donc sur le fond, cette opération est un symptôme de panique. On voit et on verra de plus en plus se multiplier des cycles sciences et démocratie, des conférences de citoyens, des expositions, des structures de communication telles le CCSTI et Vivagora. Toutes ces manifestations ont un effet d'esbrouf momentané, mais demeurent impuissantes à enrayer le profond mouvement de défiance des populations vis-à-vis de la société industrielle et de ses fléaux. Nous vivons un moment de décomposition accélérée où simultanément l'écologie et l'obsession d'une campagne présidentielle et où tous les candidats ne voient d'issue que dans la fuite en avant technologique, l'investissement dans la recherche, l'innovation, la croissance et la consommation. Cela ne signifie nullement que sous l'effet mécanique de la dégradation environnementale et sociale, effet de serre, misère, etc., notre société bascule dans l'insurrection vitale, mais inversement, l'accroissement des contradictions entre l'économie et l'écologie réveille une instabilité et une inquiétude qu'aucun placebo communicationnel ne suffira à calmer. ce ne sont pas seulement les glaciers qui ont commencé à dégeler. Vous n'en avez pas fini avec les opposants aux nécrotechnologies. Voilà, ça c'était pour PMO, donc pièce et main d'œuvre. Pièce et main d'œuvre qui a subi une attaque en règle lors de l'édition du 29 novembre dernier de Charlie Hebdo. Donc ces pièces et main d'œuvre qui s'en défend. Donc il y avait une double page consacrée aux nanotechnologies, dont un article d'Antonio Fischetti consacré aux dérives de la nanophobie et qui se présente comme un reportage à Grenoble où les opposants aux nanotechnologies se trompent souvent de cible. Pièces et main d'œuvre étant citées tout au long de ce reportage, y compris dans déclaration entre guillemets, mettons les choses au point, nous ne connaissons pas Fischetti, nous ne l'avons pas rencontré, nous ne lui avons pas parlé. Ce scientiste fabule ou s'est fait abuser par des loustiques, et ce qui donne une piètre idée de ses capacités de journaliste. Ce reportage bidonné est en fait un plaidoyer pro-nano, le billet d'humeur d'un scientifico-médiatique vexé comme nombre de ses collègues, qu'on ait pu se passer de ses lumières pour critiquer un projet technoscientifique qu'il découvre avec 4 ans de retard. C'est bien sûr pièce et main d'œuvre qui parle, donc par rapport à cette édition du 29 novembre 2006 de Charlie Hebdo. Voilà, on va en terminer avec quelques petites annonces qui ont à voir avec tout ce dont on vient de parler. Premièrement,
les déboulonneurs. Le collectif des déboulonneurs, on en a parlé fréquemment, en fait, agit contre la publicité en barbouillant au vu de la police, notamment donc des panneaux 4x3 à Paris. Pas seulement à Paris, en province aussi. Et donc la prochaine action des déboulonneurs aura lieu le samedi 23, donc c'est samedi prochain, le samedi 23 décembre 2006 à 11h, très précise. Rendez-vous sur le parvis de l'Hôtel de Ville, devant le bureau de poste, métro Hôtel de Ville. Et là, je lis le communiqué. « Venons nombreux soutenir ceux qui désobéissent. Vous voulez faire partager votre aversion pour l'horreur publicitaire? Venez prendre la parole à la tribune. Vous avez quelques inspirations artistiques ou décalées. Venez en faire profiter l'assistance. Vous pouvez aussi vous impliquer davantage en rejoignant le collectif pour les préparatifs ou les barbouillages ou en montant un collectif local, fiche pratique, sur demande. Soutien financier pour les procès à venir, celui de Paris donc le 12 janvier 2007, celui d'Alès en mars 2007, chèque à l'ordre du collectif des déboulonneurs, 24 rue Louis Blanc, 75-10 Paris. Et ce communiqué se trouve notamment sur le site des déboulonneurs, donc http://www.déboulonneurs.org.
Oui, puisque les déboulonneurs ont des problèmes aussi avec le fichage ADN, hein, puisque lors de leur dernière action ou de la précédente, ils avaient été arrêtés et on leur avait demandé leur fichier ADN qu'ils avaient refusé en bloc, bien évidemment. Demain à la librairie Quilombo, donc c'est une librairie parisienne qui se trouve au 23 rue Voltaire, ou enfin en face du CICP qui lui est au 21 terre rue Voltaire. Donc il y a la librairie organise un débat à partir de 19h45 avec Célia Isoa, traductrice de La Révolte Ludite, qui a été publiée aux éditions L'Échappée. Juste pourquoi on vous précise ça, puisque la révolte ludite a été une révolte anti-machine en fait, et en anti-technologie, ce serait un peu court de le résumer ainsi, mais bon, c'est une révolte qui a eu lieu donc à la fin du 18e au début du 19e siècle en Angleterre. Et un certain nombre de livres sont sortis ces derniers temps, notamment un qui essayait de faire de retracer toute la révolte anti-mécanique, on va dire, depuis les ludites jusqu'à les faucheurs d'OGM aujourd'hui. Ça rentre dans cette idée de contrôle social, puisqu'on ne désespère pas de voir, par exemple, des faucheurs de caméras sortir un jour en pleine nuit, pas au grand jour.
faucheurs de statues de Jean-Paul II.
Ou des faucheurs de statues de Jean-Paul II, puisqu'il paraît qu'il y en a quelques-uns qui veulent reprendre le concept et faire du fauchage laïque. Par ailleurs, sur Oaxaca, donc l'état de Oaxaca, l'état mexicain de Oaxaca, qui est toujours en révolution en ce moment, il y a une projection de débat sur le processus révolutionnaire à Oaxaca qui est organisée le 21 décembre prochain à 21h à l'espace Co de Lozerte. C'est dans le 82. Alors bon, je ne pense pas qu'il y ait énormément de Parisiens qui se déplacent jusqu'à là-bas, mais c'était pour mention. Vous pouvez avoir des renseignements à mediatek.com. d.autres avec un S, point possible avec un S, @no-log.org. Sinon, une toute petite dernière information avant de passer aux oreilles avec des trous dedans. À savoir qu'il y a un nouveau squat qui s'est ouvert au 45 rue du Faubourg du Temple, qui sera peut-être un lieu du prochain Festival des Résistances et des Alternatives à Paris, 2007 donc. Et donc on invite tous nos auditeurs et nos auditrices à aller soutenir le collectif de résidents qui a ouvert ce squat donc au 45 rue du Faubourg du Temple. C'était les amis d'Orwell. Bon, on a une minute, mais bon, on va pas combler inutilement. Hein.
On se retrouve dans 15 jours. Donc pour...
Dans 15 jours, a priori, on devrait pouvoir parler du flicage sur Internet et de manière générale informatique. Bonne journée. C'était les amis d'Orwell.
Bonsoir André.
Bonsoir André.
Bonsoir André.
Vous êtes sur Radio Libertaire et c'est des oreilles avec des trous
dedans,
comme chaque mardi à 17h.
Voilà, et vous êtes aussi sur Radio Bazarnaum, qui est une radio qu'on écoute sur le web.
Ouais, HTTP, y a un site internet, http://bazarnaum, avec un o.free.fr.
Voilà, alors des fusicmoles pour fouler tout, maintenant. Il est 17h et on va attaquer aujourd'hui après les deux émissions.
Ah non, il est 17h01 là, parce que voilà. Depuis le temps qu'on a dit qu'il est...
Après les deux émissions.
Et là, on réalise de nouveau avec André.
Ah oui, salut Dédé. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça a été un peu dur.
Ça va être un peu mieux.
Ouais. Vas-y.
Oh. Donc après les deux. Vas-y, Dédé.
Je me lève.
Après les deux guerres. Voilà.
Ah putain.
Après les deux guerres, la liberté, une émission libre sans thématique.
Et on en profitera pour en faire deux de suite, même la semaine prochaine, ce sera encore totalement libre. Puisqu'on n'a pas de thème...
Écoutez, moi j'ai décidé de vous ramener en fait des musiques de Macédoine. Pourquoi ? Parce que c'est un pays que j'aime bien, que j'ai visité à plusieurs reprises, et j'en ai ramené quelques trucs qu'on ne trouve pas ici, donc c'est un peu des raretés que on va écouter ce soir. Et puis c'est aussi pour faire suite à cette émission sur les fanfares, on avait un peu trop dit, comme d'ailleurs parfois on a ce défaut, qu'on n'avait pas le temps d'expliquer, qu'on préfère écouter plein de musique en disant « bon c'est con, j'aimerais bien raconter, mais finalement on n'a pas le temps ». Et donc je vous avais passé une fanfare de Macédoine qui s'appelait Malechevski Melos en vous disant que je les avais rencontrés là-bas. Et puis j'avais un peu zappé sur ça.